Hey, salut, c'est Frank. T'aimes le podcast du Trio économique? Tu sais pas comment faire pour nous aider, tu veux nous aider? Tu t'abonnes à patreon.com/isénéchal si t'as un petit peu d'argent. Ça te permet d'avoir les podcasts avant tout le monde et aussi ça te permet d'avoir accès à la partie bonus. L'autre affaire que tu peux faire pour nous aider, tu prends ton téléphone et dans Spotify ou Apple, tu as une place où tu peux laisser une note. Tu peux évaluer le podcast. Fais-le, s'il te plaît, donne-nous une note. Ça nous permet d'avancer, ça nous permet de faire connaître le podcast. OK, bon show, là.
Ouais, salut. Va te prendre un trio économique, s'il te plaît.
Bon, bienvenue tout le monde dans un autre épisode du Trio économique. On approche du 50e, tranquillement, pas vite. Pour les gens qui sont sur Patreon, ils l'entendent à jour. Pour ceux qui sont sur YouTube, il y a toujours une couple de semaines de retard. Vous pouvez l'entendre aussi, ceux qui ne nous voient pas, mais ça, c'est toujours c'est à vos risques et périls, parce que voir, ça a toujours plus de substance. Ceux qui sont sur Spotify, iTunes, même, je pense, Amazon Music, en tout cas. Bref, toutes les plateformes de streaming, si vous pouvez laisser sur le device que vous utilisez une évaluation, vous pouvez laisser une note au podcast. Sur Apple, c'est plus complet, vous pouvez laisser un commentaire aussi, donc ça, c'est bien. On fera peut-être un jour, s'il y a beaucoup de commentaires, on lira le meilleur pendant le podcast. Fait que ça, allez-y, puis lâchez-vous là. Puis c'est ça, à chaque podcast, d'habitude, on part dans tous les sens, tous les côtés pendant une heure, puis après, on fait un petit peu de notre sujet, puis on passe à la partie bonus pour les gens sur Patreon. Habituellement, c'est un peu de la faute à Yann, mais aujourd'hui, on va être discipliné, puis on va parler du préféré, en commençant comme premier sujet, du préféré de Vincent, qui est un amant de l'autonomie alimentaire. Je pense que c'est ça qui est important.
Vive les patates chips!
Exactement, c'est ça. Donc, on a eu cette semaine, je vais essayer de retrouver l'article pendant que je vous passe la POC, messieurs. Mais évidemment, Fitzgibbon a encore sorti le chéquier.
Hey, l'autonomie alimentaire des chips, moi, ça me fascine. C'est fascinant. Comment utiliser les buzzwords? Là?
Mais écoute, autonomie alimentaire, c'est probablement une des choses que, comme historien économique, j'ai aucune compréhension de comment on peut défendre ça, parce que l'autonomie alimentaire, c'était pas mal la norme historique pré-1800.
C'est ça qu'on avait avant, effectivement. La sécurité alimentaire ou l'autonomie alimentaire, c'est l'âge médiéval.
Moi, c'est comme si tu me disais « Hey, on a inventé de quoi, c'est vraiment cool, ça s'appelle une bécosse. Tu peux sortir de ta maison. » Puis aller aux toilettes dedans, c'est le fun parce que ça sent pas en dedans. Puis là, toi, tu te dis, ouais, mais c'est un peu ça qu'on avait avant d'avoir l'eau courante. Là. Je veux pas être plate, là, mais moi, les trucs d'achat local puis d'autonomie alimentaire, dans ma tête, c'est pas un progrès. Là. C'est pas mal ce qu'on appelle un retour en arrière. Là.
Mais c'est proposé par des progressistes.
Ouais, c'est ça l'important. Ouais.
Mais, donc, écoute, quand tu prends les subventions en général, l'autonomie alimentaire, là, qui est quand même l'idée qu'ils ont décidé de subventionner, ce qui nous a rendu riches, c'est justement d'avoir des endroits qui se spécialisent mieux en production agricole, produire, puis nous, on échange d'autres choses que nous, on fait mieux. Puis l'effet que ça a, c'est une intégration des marchés à l'international, une réduction de l'occurrence des famines, des disettes alimentaires, une augmentation de la disponibilité calorique. L'idée de consommer local par la force.
La diversité, Vincent, la diversité. Je veux dire, on ne mangerait pas de bananes si on était autonome alimentairement. Là,
ouais, mais
c'est drôle
bananes,
en plus que...
Mais tes bananes, qu'est-ce qui arrive? C'était des bananes du Saguenay.
Ouais, c'est ça. Mais c'est drôle pareil que tous... Je pense qu'on a un peu... presque tous dans le même groupe d'âge. Là. Mais les auditeurs qui nous écoutent, là, vous avez tous déjà entendu vos parents, s'ils sont plus vieux, ou vos grands-parents, vous dire « Dans mon temps, on avait un orange à Noël, blablabla, bla, bla, puis on n'avait pas de légumes. »
Juste à Noël.
Ben, c'est ça, juste à Noël. Puis là, t'es comme, ben, c'était ça aussi, l'autonomie alimentaire. C'est qu'un orange...
Puis des navets.
C'est un événement, avoir des oranges. Là, tu te dis, c'est un peu un cliché, là, comme l'histoire du curé qui rentre pour dire de faire 8 enfants, puis le père le met dehors. T'sais, on ne sait jamais trop qu'est-ce qui est vrai ou pas dans ce genre de cliché-là. Toujours un petit fond de vérité, là. Mais c'est très romancé. Mais je pense que ça illustre quand même que j'ai de la misère à comprendre que, comme on s'est tous fait dire ça, qu'on comprend un peu c'était quoi la réalité de nos grands-parents. T'sais, moi, ma grand-mère, elle n'a jamais cuisiné de riz. Avant sa retraite, ben, avant la retraite de mon grand-père, il n'y avait pas de riz. C'était pas quelque chose que les gens cuisinaient à l'époque. Il n'y avait pas ça vraiment.
Les pétacles.
Ça coûtait cher. C'était beaucoup une alimentation à base de patates et de viande. Les pâtes à viande avec des patates dedans. Les steaks avec les patates jaunes. Tout le monde connaît ça, là, la bouffe du terroir canadienne-française. Mais ça, c'était pas nécessairement parce qu'ils voulaient absolument manger ça. C'est parce que le set de choix, là, l'offre n'était pas très, très diversifiée. Là.
Non, tout le monde. On gagnait du scorbut parce qu'on manquait de vitamine C.
Ouais, ça c'était avant, par exemple. Ça fait un bout qu'il n'y a personne qui a eu le scorbut. Là. Moi, je pense que je l'ai eu maintenant, mais je pense
mais que c'est. Mais ça, c'est avant qu'on s'attaque directement aux propos de Fitzgibbon, puis qu'on concentre en premier sur la prémisse de la conversation que lui y a en disant on va subventionner local, qu'on croit ou non que ça qui croit vraiment à la chose ou que c'est uniquement un truc politique, ce qui est tout à fait possible.
C'est même pas politique.
Alors moi, je suis convaincu que c'est juste pour jouer sur des cordes, pour plaire à des constituencies ou de plaire à des amis.
Là, on commence à jaser. Là, je commence à t'aimer quand tu dis des affaires de merde.
Ça en devient grossier. Mais sur la prémisse, là, les gens qui disent dans mon temps, je m'excuse, mais à un moment donné, même si j'ai certains réflexes conservateurs, c'est pas vrai que tout progrès est mauvais. Et il me semble que dans mon temps, il y avait juste des oranges à Noël. D'en avoir à l'année longue où tu veux, quand tu veux, c'est pas mal une amélioration. Et ce que tu devrais vouloir, c'est de dépenser le moins possible sur l'alimentation pour que tu puisses le dépenser sur autre chose, que ce soit Netflix. Des cours pour tes enfants, pour Netflix, des livres. La réalité, c'est que quand on a moins à dépenser sur...
Tu vois que Vincent, c'est un bon papa, des cours pour les enfants, des livres, Netflix.
Non, mais tu sais, écoute.
Ça, c'est Netflix, de l'extra.
Mais la réalité, c'est que quand tu achètes Netflix, quand tu prends une souscription à Netflix, ce que tu prends aussi, c'est un troisième parent pour s'occuper de ton enfant.
Ouais.
nous autres, c'est plus du trouble parce que, tu sais, on est des bons parents, justement. Donc, on limite le temps de consommation de Netflix, ce qui amène beaucoup de chicanes. Fait que c'est plus un aria Netflix que d'autres choses, finalement.
OK.
Mais ça pourrait être pire, il pourrait être branché sur le câble. Là. Fait que compte-toi au moins chanceux de ça. Mais j'aurais pu mettre aussi, pour rentrer dans le même sujet, il y avait une conférence de presse cette semaine. Là. Ça n'a pas de sens parce qu'on est en podcast, là. Mais il y a eu une conférence de presse au Québec où notre cher premier ministre était là. Je pense que Fitzgibbon était là aussi avec une autre personne dont j'oublie le nom. Et là, il présentait les nouveaux étiquettes de l'achat local québécois. Là, je sais que je vais faire fâcher Vincent, là, mais il faut que j'explique
pour le premier bien, d'ailleurs à l'avoir fait. Hein? Qui est-ce qui nous identifiait très clairement les produits québécois dans leur tablette?
Je me souviens pas.
Le gros méchant sale américain de Monsieur Walmart.
Ah ouais.
La première fois où j'ai vu vraiment là, achat local ou item local, des choses comme ça, c'est chez Walmart.
Mmh. Ouais, je me souviens pas, mais ça. Ben, puis là, l'idée, c'est qu'actuellement, il y a un sticker qui s'appelle Aliment du Québec. Mais là, en gros, qu'il soit fabriqué ici ou enfin, peu importe, là, pas juste Aliment du Québec, là, mais tu as des stickers actuellement qui ne font pas la distinction entre assemblé ici, produit ici ou encore compagnie d'ici. Fait que là, imagine-toi donc qu'ils vont faire 3 stickers différents. C'est pas une blague hein, que je compte. Ils vont faire 3 stickers différents. Il y en a un qui va vouloir dire, mettons, 100% Québec.
Bleu foncé. Le deuxième
va vouloir dire assemblé ici ou fait en partie ici.
Bleu poule.
Et le troisième va être, il n'y a rien qui est fait ici, mais c'est quand même une compagnie québécoise.
Blanc.
Donc là, puis là, le but de ces stickers-là, c'est d'expliquer aux gens ce qui est bien dans leur acte d'achat. Là. C'est ce que j'ai...
Un game changer.
C'est ce que j'ai compris. Mais pour, avant qu'on revienne à...
Man, il y a eu combien d'heures de réunion pour penser à ça?
Ah, je sais pas, mais en mais, plus, moi...
Faisons la tentative de nous imaginer le groupe de fonctionnaires qui met ça en place. Parce que là, c'est des bonnes idées. Tu annonces ça dans les médias. Il va y avoir trois catégories. Ça a l'air simple. Mais là, c'est pas simple de même. Là, ouais, le crayon Bic, là. Ce qu'on fait avec le crayon Bic, c'est d'ici, ça. Ah, mais là, t'as peu, là. C'est assemblé où? Ça vient d'où? C'est une compagnie... OK, ça, c'est pas bon. Ça, c'est... Scrap. OK, next. Le crayon feutre noir, Sharpie. OK. Hey, il faut tout t'inspecter, là.
OK, ah, attendez,
c'est, je vois... C'est juste sur les aliments. Il doit y avoir quoi? 4000 items? 10 000 items?
Je vais le partager pour les, au visuel pour que les gens voient que... je dis quand même pas toujours n'importe quoi, là. Donc, ça s'intitule, c'est sur Radio-Canada, mais moi, j'ai vu la conférence.
Hey, de nouvelles... Bleu foncé, bleu poudre, j'avais raison. Hein.
Oui, ben c'est ça en plus qui est le pire. De nouvelles certifications pour mieux identifier les produits du... québécois. Donc, on a produit du Québec, on a fabriqué au Québec et on a conçu au Québec. Donc, je ne sais pas exactement c'est quoi l'objectif de ça, honnêtement. Là, concrètement, c'était-tu juste de faire une conférence de presse?
Ça, c'est du logo tout craché, ça.
Ah, mais le pire, c'est que... Écoute, il y a vraiment aucun effet. En fait, ce que je suis en train de chercher pendant qu'on se parle, là, j'ai cherché « Effects of Local Branding ».
C'est clair qu'il y a une étude là-dessus.
Il y en a tellement, là... Et la plupart du temps, écoute, les trois premiers articles que je vois, là, les trois, juste à regarder les abstracts, donc les résumés, ont tous l'air de dire que ça n'a aucun effet significatif dans les ventes totales. Ce qui se passe généralement, c'est une redirection entre les ventes. Donc, ce qui se passe, c'est que tu te... Donc, dans un secteur, donc disons des conçus et fabriqués au Québec pour le bois, disons. Donc, des meubles, tu vas avoir effectivement une réorganisation un petit peu vers les compagnies québécoises. Par contre, l'autre étude qui est juste en dessous, ils disent aussi, un des effets qui vient avec, c'est que d'autres secteurs perdent des ventes parce que les gens ont moins d'argent dans leur poche, parce qu'ils ont déplacé vers quelque chose qui était un peu immatériel. Peut-être que tu dis, tu sais, ça c'est bien d'acheter québécois, mais je vais payer un petit peu plus cher. Mais là, un petit peu plus cher, maintenant, il n'est pas disponible pour un autre secteur québécois, que ce soit des restaurants québécois, que ce soit des écoles au Québec, que ce soit le Netflix québécois que Alexandre Taillefer a toujours rêvé de partir avec une tonne de subventions.
Il y avait le Amazon aussi québécois.
Oui, il y avait le Amazon québécois.
Amazouf!
Oui, c'est ça. C'est...
Mais au final, ce qui se passe, c'est que peut-être dans un secteur, disons le meuble, tu as une augmentation de la proportion de ventes qui sont de compagnies québécoises. Mais dans d'autres secteurs, les compagnies québécoises vont avoir une contraction, surtout des compagnies à services qui, eux, ne peuvent pas exporter leurs services à l'étranger. Le résultat, c'est que tu peux appauvrir les Québécois avec des projets comme ça.
Veux-tu dire c'est quoi ça, Vincent? Les gens qui vont être influencés par ça dans leurs achats, là, ça va avoir le même impact que les gens qui sont influencés par les produits bio dans leurs achats. Alors, regardez la superficie de votre épicerie, regardez la superficie de votre section bio, là, et on parle d'un phénomène très marginal.
Ben, puis même là, juste pour ajouter à ça, si les compagnies pensent... Puis ça montre un peu l'illettrisme économique qu'il y a dans les médias. Moi, je suis ici. Quand une compagnie investit dans sa réputation, dans sa marque de commerce, c'est pour que les gens, justement, payent un petit peu plus cher pour assurer une qualité. Quand tu décides d'acheter du McDonald's, par exemple, en Inde, tu vas payer probablement plus cher qu'un restaurant local, mais tu es assuré d'une certaine qualité. Mais une entreprise qui est capable.
Le poulet n'a pas été tué dans la rue.
Effectivement. Tu t'achètes quelque chose, tu t'achètes. Un aspect immatériel, un aspect qui est au-delà de... Dans le bien, il y a autre chose que juste le bien en soi ou le service en soi. Il y a une garantie de qualité. Mais un entrepreneur qui veut faire du profit, s'il est capable de le faire pas cher, cette étiquette-là, il va le faire. Le fait que Walmart, par exemple, le fait aux États-Unis, s'il y a un profit à faire, ils vont le faire. Si l'État intervient, si l'État intervient pour le faire, c'est parce qu'il y a quelque chose d'autre qui est derrière. Parce que c'est pas comme un échec de marché.
Ben, c'est un autre prétexte pour donner des subventions, on s'entend, là.
Exactement.
Je pense que, parce que concrètement, je pense que la plupart...
C'est plus que ça, ce que Vincent vient de dire, là, c'est une autre affaire. Quel produit, présentement, là, est clairement affiché comme étant québécois dans notre épicerie? Déjà qu'ils le font depuis longtemps, ils disent hey, « c'est fabriqué au Québec ». Tu sais, je veux dire, moi, je fabrique des biscuits demain matin, là. Puis si c'est payant d'afficher vraiment que c'est fabriqué au Québec, je vais le mettre en gros, là. Bien, la seule affaire que je peux t'identifier dans une épicerie présentement, là, qui est identifiée comme étant faite au Québec puis qui n'est même pas faite au Québec, c'est le fromage. Petit Québec.
T'es-tu sûr que le Petit Québec n'est pas fait au Québec?
Je pense que c'est fait en Ontario, ça.
Ouais, je pense que c'est fait en Ontario. c'est quand même très drôle. Mais moi, je trouve que c'est le discours un peu qu'il y a là-dessus. Bon, t'as différents degrés de discours. Là. T'as les gens qui y croient vraiment, puis t'as les politiciens. Moi, je mélangerais pas ça ensemble. Ouais, c'est ça, un peu de violon. Moi, ce que je trouve un peu déplorable là-dedans, c'est que je pense que ça part un peu de l'abus d'un bon sentiment. C'est-à-dire que c'est comme si on généralisait à l'ensemble des actions qu'on fait lorsqu'on est un consommateur, à l'ensemble des choix économiques qu'on faisait. Le comportement que tu vas avoir versus, je sais pas moi, ma tante Claire qui fait de la sauce à spaghetti. Ma tante Claire, quand elle fait de la sauce à spaghetti, tu vas y en acheter un pot pour l'encourager. As-tu remarqué, c'est toujours ce discours-là. On encourage les compagnies d'ici. Ouais, mais moi, là, mes choix économiques comme individu, là, je peux pas avoir comme objectif d'encourager tout le monde. À un moment donné, le but, c'est de me servir moi. Je comprends qu'il y en a qui vont capoter et ça a l'air individualiste. Là. Et au bout, ce que je dis, ça l'est. Je m'en excuserai pas. Parce que c'est ça le fondement, là, je veux dire, du principe de la chose. On fait des choix qui, techniquement, sont bons pour nous. De temps en temps, soit pour te donner bonne conscience, soit pour supporter une cause que tu adhères. Je vais prendre un exemple. Je vais te prendre un exemple concret. Ben, ça pourrait être les scouts, mais mettons quelqu'un pourrait dire ben, moi, j'ai décidé d'acheter ce produit-là parce que j'ai vu qu'il donnait 1$, mettons, pour aller pour les réfugiés ukrainiens. Il est plus cher que l'autre, mais je le fais parce que c'est un cas de conscience. Je fais volontairement ce choix-là. Mais l'ensemble de mes choix ne peuvent pas être l'universalisation de ce principe-là qui est encourager des causes. Là. Ça ne peut pas fonctionner. Ça peut fonctionner pour un ou deux gestes que tu choisis. Mais pas pour tous tes gestes. Parce okay. Que Mané, c'est toi qui es au centre de ça, c'est pas les autres. Là.
La journée que tu le mets en place, là, le lendemain, les gens qui le réclamaient sont pas là pour t'applaudir. Ils vont dire là, ça va être correct acheter dans les grandes surfaces. Ouais, même j'achète. Moi, je vais au Walmart, là, mais je prends juste les étiquettes du Québec. Ouais, Walmart. Dire, tu pourrais faire ton épicerie dans une épicerie de quartier. Tu pourrais aller dans un marché public. Tu pourrais te faire venir des paniers de légumes de tes agriculteurs locaux. C'est jamais assez. Never enough. Never enough.
Je pense, Vincent, je suis pas sûr de l'auteur, là, mais je pense que c'est Robert Nozick qui parlait de ça un moment donné, que le concept de local, en fait, n'a aucune limite. Parce que quand tu es à l'échelle nationale, le local, ça va être un truc national, mais après ça, tu peux aller au niveau des régions. Par exemple, là, moi, je sais, cette mentalité-là, tu es très présente dans ma région natale. Quand tu consommes des trucs ou tu encourages des entreprises externes à cette région-là, là, c'est plus de l'achat local, c'est t'encourages l'étranger. Tu comprends? Ça peut même se ramener jusqu'à ta ville, ça, ou ton quartier, cette logique-là. Ben, c'est pas une logique économique qui est viable.
Je me souviens de quand je vivais à Hochelaga, parce que j'ai déjà vécu à Hochelaga, il y avait fait à Oma.
T'as déjà été pauvre, Vincent?
Non, c'est parce que c'est quand Hochelaga, je gentrifiais.
Vincent, il a gentrifié Hochelaga.
C'est correct comme place, Hochelaga. Il n'y a pas de raison de dénigrer la place. Mais je me souviens que quand je vivais là, ça, le processus de gentrification avait commencé. Puis tu avais vraiment beaucoup d'hostilité de plein de gens assez à gauche. En fait, il y avait eu du vandalisme beaucoup dans le quartier contre des nouveaux commerces qui occupaient des bâtiments abandonnés. qui est en train de toute la pratique de gentrifier le quartier.
Rénover, investir, offrir de l'emploi.
Oh, et puis écoute, moi, ce que je me souviens, c'est que j'avais eu un gros débat avec une des têtes à penser de l'Iris, où est-ce qu'elle disait, ben là, il y a plus de gens qui vont venir dans le quartier, donc les loyers vont augmenter. J'ai dit, oui, mais aussi, il y a un effet aussi de spécialisation. Quand il y a plus de trucs dans le quartier, il y a des coûts que toi, tu as qui peuvent baisser, comme par exemple, tu as moins besoin de te déplacer loin pour acheter certains achats. Donc, peut-être que tu consommes moins d'essence. Tu as plus de services de proximité. Et donc, il y a une question que tu peux poser. Est-ce que suite à un quartier, suite à la gentrification d'un quartier, est-ce que, dépendant de ton revenu, tu as plus de chances de quitter ou de rester dans le quartier? Et ce qu'on trouve, c'est que la gentrification, il y a un article fameux en économie, dans des marchés peu réglementés sur le loyer, donc il n'y a pas trop de réglementation sur le loyer, mais aussi sur la construction d'unités additionnelles, la gentrification vient, même chez les plus pauvres, avec des plus grandes chances de rester dans le quartier qui se gentrifie. Donc, ils ne se font pas expulser, en fait, c'est parce qu'il y a des gains de qualité qui arrivent. Peut-être que le loyer augmente un petit peu, mais le revenu réel, le bien-être augmente massivement. Donc, ils sont gagnants, eux aussi.
Mais tu vas trouver un exemple d'une personne qui est partie parce qu'il était plus capable de trouver d'emploi dans son secteur.
Puis on va médias mettre la caméra autour, dessus. Oui, mais les médias ne souligneront pas le nombre de personnes qui sont à plus faible revenu, qui ont eu accès à des opportunités qui sont plus faciles, peut-être des emplois plus proches.
Mais le pire, c'est pas ça, Vincent. Là. Je m'excuse de te couper dans ton élan, là. Mais le non, pire, c'est pas ça. C'est que dans la même conversation, je pense que je serais prêt à mettre un 50 là-dessus. Là. Dans la même conversation, le genre de personne qui va te dire ça, qu'il faut lutter contre la gentrification, va aussi te dire qu'il faut lutter contre l'étalement urbain en densifiant.
Je serais pas surpris.
Moi, en fait, j'ai beaucoup de misère à essayer de concilier ces deux trucs-là ensemble. Il ne faut absolument pas qu'on gentrifie les quartiers. Mais là, par exemple, il faut que les gens arrêtent d'aller en banlieue puis il faut densifier la ville.
Totalement okay. D'accord.
OK, mais ils vont aller où, ces gens-là?
Écoute, Frank, j'ai été très...
Ouais, j'ai vu du coin de l'œil. J'essayais de ne pas perdre mon...
J'ai été très...
Sérieusement.
J'ai été très déconcentré par Yann qui faisait des niaiseries dans le décor. Écoute, mettons ça de côté.
Je vais changer. On va scraper le podcast.
Ah, écoute, des fois, ça vaut la peine de faire des niaiseries. Mais oui, pour revenir à ce que tu disais avant qu'Yann, encore une fois, c'est de faire tout déraper. Il y a vraiment cette incohérence-là qui est vraiment fréquente. Puis non seulement ça, mais quand il parle d'étalement urbain, il en parle comme si c'était mauvais. Je veux aussi dire que l'étalement urbain, c'est une bonne chose, tout comme la gentrification, parce que, écoute, je vais te donner une anecdote. Ça te montre, il y a un gars au Québec qui s'appelle Louis Marion, qui est un des penseurs de la décroissance.
Oui.
Ah, tu le connais?
Ouais, ben, pas personnellement, mais je connais ses affaires. Hein.
Le gars a quand même fait un livre sur la décroissance.
Mais en tout cas, oui, c'est un crime, c'est vrai. C'est... Là, comment tu connais? C'est parce qu'il est vraiment, c'est vraiment un personnage. J'ai enseigné avec lui, il y avait un cours à HEC. Non, qui s'appelait...
Frank, il est bien plus dumb que ça d'habitude. Comment ça, il lit ce gars-là?
Oui, c'est ça.
Ben moi, c'est parce que je me disais que... Parce que la raison que je vais dire, ça va expliquer ce que je t'avais de dire, c'est que je peux pas concevoir que quelqu'un veuille lire ce qu'il écrit. Parce que j'ai enseigné avec lui. Quand j'ai enseigné avec Marion, l'expérience était hautement déplaisante. Parce que c'est un cours qui se donne à deux, à HEC, qui était un économiste et une personne de la faculté de management.
Pourquoi ça se donne à deux?
Parce que ce qui se passe, c'est que tu fais des visions contrastées de l'entreprise. La vision plus sociologique, la vision plus économique. C'est un bon mix. Puis j'ai enseigné avec plusieurs autres profs en sociologie qui étaient vraiment bons. Genre Anne Peset, Anne Meny, des noms pas très grand public, mais des vraiment bons profs qui étaient capables, tu sais, des bons pédagogues, en tout cas. Lui, il arrive, il fait du preaching. Là. Puis honnêtement, l'expérience a été déplaisante pour tout le monde. Puis à la fin, même les gens de la faculté de management s'excusaient un peu de m'avoir matché avec lui parce que Moi, je ne sais pas quoi faire. Là. Il est décousu, ça ne se suit pas, c'est hyper idéologique.
Ouais.
Il passe des trucs comme... C'était pas important, mais une des choses qu'il avait dit sur l'étalement urbain, c'est qu'il dit « c'est super bien de se vivre en grande densité. » Puis à un moment donné, j'ai dit « je suis prêt à croire que peut-être, dans certaines conditions, plus de densité, c'est mieux. » Mais à un moment donné, s'il y a trop de monde dans un petit espace, tu peux avoir plus de problèmes écologiques parce que tu n'es pas capable de gérer la gestion des déchets, que tu n'es pas capable de gérer facilement la congestion.
Le smog en campagne, c'est tranquille.
Ben, c'est ça. Fait que là, je dis, écoute, c'est pas un truc unidirectionnel que tu devrais toujours en vouloir plus. Il y a un point où tu ne devrais pas en vouloir trop. Puis là, il avait complètement freezé la seconde que j'ai dit ça. Moi, j'ai dit, je peux imaginer que tu devrais vouloir un étalement dans une certaine mesure. Tu ne devrais pas l'encourager, tu ne devrais pas le décourager. Peut-être que tu peux faire certains zonages pour des trucs d'externalité ou des choses comme ça. Mais j'explique ça, puis le gars, il avait pété une coche. Puis là, il est embarqué dans la décroissance comme faux. Ouais. Puis à ce moment-là, tu as vu toute la dissonance que toi, tu décris qui est apparue.
Attends un peu. T'as-tu dit un prof de management d'entreprise?
Oui, oui.
T'as peu, là.
Ouais, mais HEC, c'est rendu n'importe quoi.
Non, t'as peu.
Attends, c'est parce que...
T'as peu. Une décroissance... Un gars qui favorise la décroissance, il donne des cours de management d'entreprise. Est-ce que la job... Moi, je n'ai jamais connu ça, un gestionnaire d'entreprise qui dit qu'il faudrait décroître cette année. Ça existe-tu, ça?
Ça dépend. Attends, à HEC, il y a plusieurs. Oui, il y en a. Il y a Yves-Marie Abraham aussi qui défend ça au Québec, qui est à la faculté de management à HEC. Mais, management, c'est vraiment.
Oui, mais attends un peu, là. Les entreprises sacrifices. Y a-tu quelqu'un qui réalise que c'est des entrepreneurs qui vont prendre ces cours-là potentiellement? Ou des gestionnaires d'employés, des gestionnaires d'entreprises. Il n'y a personne dans le monde de l'entrepreneuriat qui parle de décroissance. Faut-tu être mongol pour parler de décroissance quand, quand tu gères une entreprise? Hey, Frank, sais-tu quoi? Moi, je l'ai ton salaire cette année. J'ai pas le goût d'avoir de la croissance.
Ouais, c'est ça. Puis les gens qui nous écoutent, là, qui vont appeler pour transférer leur fonds de pension, des trucs de même, Yann, il n'en prend plus parce que là, on décroît maintenant.
Écoute, mais c'est parce qu'il faut comprendre qu'il y a HEC. Il y a deux départements de gestion.
On devrait fermer?
Non, ça s'appelle gestion des opérations et de la logistique, gestion des ressources humaines et management. Ce n'est pas les mêmes affaires. Tu as d'autres comme économie appliquée, affaires internationales, entrepreneuriat, innovation, finance, comptabilité, marketing,
science de la décision. Une entreprise qui a besoin d'un élève qui a reçu des cours de décroissance?
Écoute, la réponse, c'est j'en connais pas.
Je suis tout oui.
Non, j'en connais pas, puis j'en vois pas la pertinence, franchement. Mais ceci dit, de dire qu'il n'y en a pas la pertinence, je t'explique pourquoi il y en a un à HEC.
Non, je comprends, mais c'est pas... bien que j'exagère, mais je veux dire, c'est sérieusement, ça n'a pas de bon sens. Là.
Restons un peu dans le même sujet, puis on va aller vers autre chose, allez voir. Je vous partage quelque chose. Attendez une seconde. On s'en va sur la carte. Ça ne sera pas long. Je vous partage la carte.
Mettons un gars qui enseigne la décroissance à l'ENAP, l'École nationale d'administration publique, je peux comprendre. Je peux comprendre.
En fait, moi, je serais plus surpris d'en trouver là qu'à HEC.
Ouais, c'est ça. Non, c'est rare qu'il y ait une décroissance, un discours sur la décroissance de l'État.
Mais l'ENAP, c'est les profs sont assez à droite, pareil. J'ai jamais compris pourquoi. Là.
Moi non,
mais c'est pour ça. Cette semaine, les gars, il y avait un échange. Je dis tout le temps cette semaine, là, parce que les gens, vous comprenez qu'on enregistre au moment qu'on enregistre. Cette semaine, il y avait un échange. Ben, pas cette semaine, mais il y a quelques jours. Il y avait un échange musclé entre... un autre de mes préférés, GND, et un autre de mes beaucoup préférés, le premier ministre du Québec. Et GND lui disait, le premier ministre ne comprend pas qu'il y a une pénurie de logements, il y a une pénurie de maisons. C'est pour les jeunes, c'est pas facile de se trouver des maisons. Pour les gens, ils ne sont pas capables de se trouver des...
Jusque-là, il est correct. Okay, c'est
bon. Des loyers, etc. Et là, ça m'a rappelé une histoire qui ne date pas d'il y a 10 ans. Qui s'est passé l'année passée. Et on s'en va sur la carte de Québec. Voici la carte de la ville de Québec. Bon, pour les gens qui ne sont pas familiers, là, on peut se promener sur la carte. Ici, vous remarquez là, qu'il y a une grosse, grosse bande de terre où il n'y a aucune rue et qu'il n'y a rien, en fait. C'est des terrains
où
vacants.
Ton club de massage préféré là-dessus?
Non, on le voit pas, malheureusement. J'ai caché. Donc, cette grosse bande de terre-là, là, je peux agrandir, on la voit, elle est ici. Il y a juste un truc dans le milieu, puis ici, c'est vide. Ça s'appelle les terres des Sœurs de la Charité.
C'est mêlée avec les cartes satellites, là, on va voir que c'est vert, ça va être encore plus beau.
Ouais, ben regarde, on le voit à côté ici, là, quand c'est tout vert, c'est beau.
Hey, on met du budget, là.
On met du budget. Satellite, là. Et toujours est-il que, je ne sais pas si j'ai cette fonction-là sur le truc.
Oui, c'est
là,
en bas à gauche.
Bas à gauche? Ah, mais OK, ouais, si je clique là-dessus, est-ce qu'on le voit? Vous voyez comme c'est beau, là? Regardez ici, on a le golfe de Beau. Bref, vous voyez les grosses terres qu'il y a ici? Ça s'appelle les terres des Sœurs de la Charité. Il y a quelque temps, il y avait un projet pour dézoner ces terres-là pour permettre des constructions résidentielles et de logements.
Ça ne vaut pas quelques millions de dollars, ces terres-là. Là.
Non, ça ne vaut pas du tout quelques millions de dollars. Et attendez, je vous partage. Puis là, j'avais un vague souvenir. J'avais un vague souvenir de quelque chose. Je me suis dit, je vais aller voir si mon souvenir est fondé. Et en deux clics sur Google, je l'ai trouvé. Plus de 100 personnes présentes à l'Assemblée publique contre le dézonage des terres des Sœurs de la Charité. Je suis sur le site de Québec solidaire en passant. C'est une véritable hémorragie qui se poursuit. 211 hectares de champs agricoles sont menacés à Québec au nom de la construction de plus de 6000 logis. Mais les amis, c'est parce qu'on va les faire où, les maisons puis les appartements?
Ben écoute, si c'est la position que tu veux tenir, je vais te laisser libre de la tenir. Mais après ça, tu as perdu le droit de parler de
pénurie de logement.
De pénurie de logement. Tu as perdu le droit à 100%. Si tu peux pas... À un moment donné, on devrait exiger un certain minimum de cohérence entre des positions. Au moins que tu sois capable de réconcilier... ce qui est clairement une dissonance assez élevée.
Ben écoute, comment tu peux concilier ces deux positions-là? Il y a des terres agricoles en plein milieu de la ville de Québec qui servent à rien.
Crack cocaine.
Qui servent à rien. Ces terres-là ne servent à rien. C'est uniquement un patrimoine religieux. Là. Ils étaient prêts à s'en départir pour qu'on laisse ça. Mais là, ben, des entrepreneurs, ça fait de l'argent, ça fait du profit. C'est pas bien. C'est des méchants. Donc, on va se mobiliser. Ils n'ont pas juste été contre. Ils se sont mobilisés. Ils ont fait des manifestations. Des pétitions. Finalement, évidemment, qu'est-ce qui est arrivé? Les sœurs ont décidé de garder leur terre et de ne pas permettre la construction. Je vous rappelle, le gars nous dit, en chambre, il y a un problème, les jeunes ne peuvent pas acquérir de propriété. Ils se sont opposés à un projet qui allait construire plus de 6000 unités d'habitation.
Moi, je suis contre la densification. Il faut... Non, j'ai pas... L'étalement urbain, excusez. Je suis contre l'étalement urbain. Deux minutes après. Il faudrait adopter certaines politiques d'occupation du territoire.
Oui, c'est...
J'haïs tellement ce mot-là, occupation du territoire, tu sais pas à quel point ça me...
Mais tu sais, on comprend pas que c'est la même affaire.
Chaque fois que quelqu'un dit ça, il y a une partie de moi qui meurt un peu en moi.
Mais ça monte un peu. Pour revenir puis closer là-dessus, ce qu'on parlait au début sur Fitzgibbon, qui finalement donne, je pense, c'est quoi, c'est 3 millions à Frito-Lay qui appartient à Pepsi pour l'autonomie alimentaire. Tu compares ça un peu avec les... C'est pour ça que maintenant, les gens deviennent cyniques, je pense, puis tu finis par te dire, bon, un politicien, c'est juste quelqu'un qui va au gré du vent de ce qui est populaire. Donc, à l'époque, c'était populaire de... Probablement, c'était populaire pour leurs militants de s'opposer au dézonage de terres agricoles. Donc, c'était la position qu'ils ont pris. Aujourd'hui, vu qu'il y a une hausse du coût de la vie puis que les logements augmentent de prix de manière... plus prononcé que par le passé, ça devient payant de t'adresser à ton électorat en disant qu'il faut faire quelque chose pour lutter contre ces hausses de prix-là et dire ben, « il faut que le premier ministre annonce des choses ». By the way, ce qu'il propose, c'est toutes des choses pour stimuler la demande. Fait que je ne sais pas en quoi ça va faire baisser le prix si tu n'augmentes pas l'offre. Je sais pas, moi, je n'ai pas de doctorat en économie, là, mais il me semble que si tu stimules la demande et que tu ne changes rien à l'offre, d'après moi, ça risque plus de faire monter le prix.
En fait, si tu stimules la demande, ce qui va se passer, c'est que tu vas te déplacer le long de la courbe d'offre. Le prix va augmenter, la quantité produite va augmenter aussi, mais tu n'as pas de déplacement de la courbe de demande. Maintenant, si tu empêches les producteurs d'ajouter des unités, là, dans ce cas-là, ce que tu fais, c'est des pénuries. Ou si ce que tu fais, c'est que tu augmentes les coûts de produire pour les producteurs en, en même temps. Là, ce qui se passe, c'est que tu vas avoir un effet assez ambigu où tu as déplacé la courbe d'offre vers la gauche puis la courbe de demande vers la droite. Tu pourrais te retrouver avec la même quantité avec plus de prix, ce que toi, tu décris présentement, avec des prix plus élevés.
Exact. Mais
écoute, regarde, j'ai un article fun site de François Bourque, et ça date, là, c'est 2008, je pense. Ouais, 2008. Les affaires, le fun qui dit là-dedans. Un peu dans le même esprit, Montréal avait statué qu'aucun immeuble ne devrait dépasser le Mont-Royal, la règle encore respectée. Le plus haut gratte-ciel de Montréal, le 1000 de la Gauchetière, 51 étages, s'arrêtant à 10 mètres au-dessus du sommet de la montagne. La plupart des gratte-ciels de Québec ont été construits à cette époque, fin des années 60-70. Les hauteurs atteintes alors ont rarement été approchées depuis. Les plus fortes pressions pour construire en hauteur viennent désormais de Sainte-Foy. Le plus récent exemple étant celui du projet de tour de 27 étages au coin de Laurier et l'Église. La ville s'y est opposée, fixant plutôt la limite à 17 étages, loin des hauteurs permises dans les grandes villes nord-américaines, mais bien d'au-delà des 8 ou 10 étages habituellement autorisés dans les zones les plus denses de Québec.
Mais comment tu fais pour densifier si tu ne le fais pas en hauteur dans une ville? C'est le bout, moi, que j'ai de la misère.
Le complexe G.
Tu vas le faire sous terre ou...
Du logement social.
Pas ces terres des Sœurs de la Charité, puis pas...
Logement social.
Oui, mais le logement social, il faut qu'il soit...
Logement social.
Pas dans la crise des HLM.
Logement social.
L'immeuble le plus haut de Québec est bien sûr le Marie-Guyard, le G.
Logement social.
33 étages. Mais le 33 étages à Québec, c'est le 15e
rang. Logement social.
I know that. L'enfer, sérieux.
Là. Non, je sais, je suis... J'en ris parce que ça, c'est plus ridicule d'en pleurer. En tout cas.
Non, mais c'est parce que moi, je me dis tout le temps, à un moment donné, quand tu tiens une position, t'essaies au moins que les autres affaires que tu proposes vont dans le sens de valoriser la première proposition que tu as faite, pas d'aller dans le contraire, je sais pas. Là, mais il me semble qu'il faut que ça aille dans ce sens-là, sinon ça tu scies la branche sur laquelle tu es assis, là, ça fait aucun sens.
2021, Le Devoir. Quand les gratte-ciels menacent le patrimoine montréalais.
Ah, Le Devoir.
Les gratte-ciels menacent le patrimoine montréalais.
Toujours okay. Plus haut. Pour le Conseil du patrimoine de Montréal, une entité consultative de la ville, cette modification au plan d'urbanisme n'a rien d'anodin et témoigne de ce phénomène grandissant. On est en présence d'un bâtiment patrimonial dont on fait valoir que la seule façon de rentabiliser les investissements inhérents à sa conservation est de construire une tour sur le même site. C'est toujours de l'opposition, de l'opposition, de l'opposition. Puis c'est ce qui fait que tous les projets ne se font pas. Puis c'est ce qui fait... puis c'est ce qu'on voit, c'est l'opposition à certains projets, puis là, des consultations, puis tout est ralenti. Ce qu'on ne voit pas, ça c'est le bout que tout le monde oublie tout le temps, c'est l'investisseur en Ontario, en Alberta, ou qui était au Québec et qui a sacré son camp, qui lui, dans un contexte où est-ce que les gens agissent de manière saine, là, d'esprit, là, il aurait construit une tour. Mais il ne l'a pas construit parce qu'il n'est plus ici. Ou il n'est pas venu ici. Évidemment, cette personne-là, elle n'existe pas vraiment. Je ne sais pas c'est quel Ontarien, normalement, avec de l'argent dans ses poches, qui serait venu construire une tour à Québec si on était moins débile. On n'est pas capable de raconter son histoire à ce monsieur-là. Il n'existe pas. Tandis que la personne dans un quartier qui a été gentrifié, qui a quitté ce quartier-là parce qu'elle n'était plus capable de s'offrir son loyer, elle existe. On est capable de la passer en entrevue, puis elle va peut-être même verser 2-3 larmes en entrevue, puis on est capable de créer une histoire avec elle. Il y a beaucoup de ça là, dans ces affaires-là.
Ah, il y a beaucoup de doubles discours, puis de, tu sais, l'histoire de la gentrification, moi, combien de fois j'ai entendu aussi que quand c'est des projets qu'on n'aime pas ou qu'on trouve déplorables, on va dire que ça va gentrifier le quartier, mais quand c'est des projets qu'on aime, là, ça va le revitaliser. Hey, je m'excuse, mais revitaliser puis gentrifier, je vois pas trop c'est quoi la différence entre les deux, là.
Taïka Bergeron craint qu'à coup de projets dérogatoires comme celui de la baie d'Outson, on finisse par créer une barrière visuelle entre le fleuve et la montagne. Hey, peux-tu te dire que Montréal, là, ça lui ferait du bien des fois une barrière visuelle devant certaines choses?
Le plateau. Mais...
Ouais, regarde, c'est...
Hey, on densifiera pas ici, on créera pas des bâtisses en hauteur. ça crée des barrières visuelles.
Mais tu sais, il n'y a pas longtemps, Yann, ça fait peut-être 2 ans, de ça, 2-3 ans, tu avais une vieille église dans la ville de Québec sur le boulevard René-Lévesque, en plein centre-ville. Donc, en plein, dans un endroit stratégique. Ouais, cette église-là est en train de s'effondrer. Okay? Il en tombait
tu
des morceaux.
De celle sur Grande Allée, là?
Oui, sur Grande Allée, ouais. Excuse. J'ai dit René-Lévesque sur Grande Allée. Cette église-là, t'en prennes de foutre le camp à terre, il y avait des morceaux qui tombaient, c'était dangereux. Il y a quelqu'un qui a proposé de l'acheter, de la crisser à terre et de faire un immeuble à logement. Qui, devinez-vous, était contre, encore une fois, ce projet-là? Parce que c'était un immeuble du patrimoine.
L'archevêque.
Alors, je ne sais même pas c'est quoi la position que la religion et que l'Église avait là-dessus, honnêtement. Là. Mais encore une fois, les mêmes gens qui nous disent « il y a une pénurie de logements, les logements coûtent cher ». Il faut absolument densifier la ville. Il y a une vieille église en ruine. On ne peut pas faire un... Je ne comprends pas leur logique.
Je ne comprends pas non plus l'aspect de plusieurs personnes qui disent conserver le patrimoine, alors que... je pense qu'on avait déjà eu cette conversation-là dans un épisode au début quand on commençait. Ce n'est pas tous les patrimoines qui valent la peine d'être préservés. L'effort de commémoration historique n'est pas une sorte de cumulatif éternel dans lequel on ne peut faire aucune élagation. Des fois, il y a des morceaux de notre passé que tu en viens à arrêter de considérer. Dans les années 60 au Québec, pendant la Révolution tranquille, il y a eu le dynamitage de plusieurs églises, des centaines d'églises au Québec, qu'il n'y avait juste plus personne qui fréquentait, qui ont été démolies, qui ont été rasées. Et ça n'a pas enlevé notre héritage.
Ouais. Tu sais, on peut transformer, mettons qu'on transforme 15 églises en musée. L'effort de commémoration, il est fait. On n'est pas obligé de toutes les garder.
Bien, il y a ça, mais il y a aussi la question de... On ne peut pas tout se commémorer. À un moment donné, si tu en venais à juste faire de la commémoration, tu ne ferais rien d'autre. Et il y a aussi des trade-offs. À un moment donné, il faut réaliser que si on préserve tous les bâtiments historiques, tous les vieux bâtiments, tu n'auras rien de nouveau. Des fois, tu devrais laisser les choses aller. Et l'autre question que je poserais, qui est peut-être un petit peu plus vilaine ici de ma part, c'est combien d'entre eux vraiment ont un attachement au patrimoine religieux du Québec, qui y croient sérieusement, qui veulent le préserver? Si c'était genre Mathieu Bock-Côté qui disait ça, je le croirais qu'il défend la position sincèrement.
Québec, c'est dedans.
Mais quand je vois d'autres personnes faire ça, j'ai plus l'impression que tu es en train d'attacher ton wagon après quelque chose d'autre pour tirer un message que tu aimes mieux avec un couvert différent.
C'est carrément ça.
Ça serait une des instances dans lesquelles je n'achète pas ta sincérité. Je ne crois pas que tu es sincère quand tu fais cet argument-là. Je ne crois pas que c'est un argument de bonne foi.
Je me suis pas trompé, ben.
À cause de la dissonance, en passant.
C'était la démolition de l'église Saint-Cœur de Marie sur la Grande Allée. Bon, on voit des images à l'écran pour ceux qui voient.
C'est elle que je pensais.
De l'église. Et si je retourne dans l'article, je descends un peu. Ma mémoire ne m'a pas failli ben. C'est ça. Là, il y avait un projet avec le monsieur qu'on voit de construire, faire place à une tour d'habitation de 18 étages. On s'entend-tu que c'est pas mal de la densification, ça? C'est pas mal arrêter l'étalement urbain. Qu'est-ce qu'on a ici? La députée de Taschereau, Catherine Dorion, regrette qu'on démolisse un des plus beaux morceaux de la ville auxquels les gens sont attachés. Elle invite les autorités à se donner les moyens de forcer les promoteurs à sauvegarder les bâtiments ayant une valeur patrimoniale.
Le pire, c'est que, soyons honnêtes, c'est peut-être même une bonne chose, parce que si c'est l'église que je pense, elle n'est pas loin du Parlement, tout ce que tu vas avoir, c'est que tous les staffers vont aller vivre là, puis ils vont arrêter de demander du logement ailleurs dans la ville de Québec, où est-ce que les gens qui vivent pour vrai à Québec veulent vivre. Puis tous ceux qui veulent un pied à terre vont juste être à côté du Parlement, ils vont payer un paquet d'argent à Québec, puis ils vont juste retourner à Montréal le lendemain. Puis, non seulement ça, mais pour les gens de Québec, c'est une excellente chose de confiner les politiciens le plus proche possible exact. De l'Assemblée nationale pour avoir à les côtoyer le moins fréquemment possible. Et... là, ça, c'est sûr, c'est mon jugement à moi. Mais tu as aussi le fait que tu concentres la demande dans un endroit qui est pertinent de la concentrer. Ceux qui ne vont pas vouloir faire, de partir de Charlebourg pour venir à Québec pour des représentations ou, de Cap Santé ou Cap Rouge pour venir à l'Assemblée nationale, vivent juste à côté à quoi? C'est 15 minutes de marche de l'Assemblée, si je ne me trompe pas, là, l'église dont on parle?
Oui, à peu près. Ouais,
c'est à peu près. Donc, là, ce que tu fais, c'est que
La suite de l'histoire. Tour interdite sur le site d'une ancienne église de l'Assemblée de Grande Allée. Donc, après avoir développé en collaboration avec la Ville de Québec un projet de tour d'habitation de 18 étages qu'il estime de qualité, le promoteur immobilier s'étonne que l'administration Labeaume veuille désormais conserver et même racheter le bâtiment désaffecté.
Ah, racheter en plus! Wow! Ah oui,
évidemment.
En plus, le fardeau fiscal des gens de Québec augmente.
Oui, fait que la vieille église pétée, dans le fond, la solution, c'est pas de la mettre à terre pour faire de la pour créer un immeuble pour pouvoir loger des gens, c'est de la nationaliser.
Mais la game dans tout ça, c'est que les gens de ce type-là, Catherine Dorion, évidemment, mais les autres personnes qui l'accompagnent, elle n'est pas seule. Tu sais, il y a un militantisme très fort dans ces milieux urbains-là, beaucoup plus fort que... un militantisme, mettons, à Lévis ou dans les banlieues. Là. Il n'y a pas de militantisme dans les banlieues. C'est... Les gens vivent en famille, des choses comme ça. Mais dans les milieux très urbains comme ça, il y a un militantisme. Les gens se côtoient, se connaissent, travaillent proches, vont prendre des bières ensemble, reconstruisent le monde ensemble dans les mêmes pubs, des choses comme ça. Ils sont de toutes les causes. Ils sont prêts à s'opposer à tous les projets. En fait, ce qui est fascinant, c'est que des gens un peu plus à droite, qui on le regarde par les votes, là, généralement, le vote à droite est plus en banlieue et en région que dans les milieux urbains. Là. J'ose espérer n'apprendre rien à personne en disant ça. Là.
Ça dépend. En Angleterre, il y a une grosse exception à ça, la City, où est-ce que tous les banquiers London. Vivent ensemble à Londres. T'as comme quelques petits bastions conservateurs au milieu de la ville. Ou est-ce que c'est vraiment étrange?
Ah, c'est fort possible, mais t'es vraiment dans cette game-là. Là, tu dis, la gauche aime dire que les gens de droite, c'est des réactionnaires. Mais la game, là, moi, il me semble, moi, quand je vois un immeuble qui veut se construire sur une vieille église, puis que l'église n'est pas un musée là, qui est visité, puis tout, là, c'est vraiment une vieille
église. Dangereuse, cette église-là. Je pense que c'est un bon exemple. Elle ne pouvait pas vraiment être sauvegardée. Elle était dangereuse.
Bon, quand je vois ça, je vois beaucoup de progrès là-dedans. Premièrement, il n'y a plus personne qui va à l'église. C'est ça que ça à terre. Deuxièmement, l'immeuble est sacrément bien situé. Il est au milieu de tout. C'est déjà dense. Là, on peut densifier encore un peu plus. Il y a quelqu'un qui est prêt à investir de son argent volontairement pour construire de quoi d'assez haut et d'exceptionnel, de luxueux. Simonac, c'est qui perd de quoi là-dedans? Là? Qu'est-ce qu'on a perdu?
Sais-tu à quoi ça me fait penser? Parce que là, l'affaire de la nationalisation, ça ajoute une twist qui est vraiment intéressante. Il y a un des textbooks que j'utilise en économie, qui est un textbook pour vraiment des étudiants plus avancés. C'est écrit par Sam Bowles, qui est un économiste assez à gauche quand même. Et un des chapitres du livre commence avec une anecdote. Puis c'est sur comment des fois tu peux avoir de la provision privée de biens publics de manière communautaire, en gros. Et l'histoire qu'il raconte pour commencer l'article, pour un peu l'article, le chapitre, pour framer la conversation, c'est qu'il y avait une colline dans la ville que lui, il vivait dedans, que tout le monde avait utilisé pour à peu près 200 ans comme un endroit commun. Et tout ce qui s'était passé, c'était que l'institution qui était propriétaire de la parcelle sur laquelle tout le monde utilisait en commun s'en foutait un peu. Donc, c'était devenu comme un endroit public, un bien public, même si c'était techniquement un bien privé. Et éventuellement, l'institution, je pense, avait fait faillite et avait liquidé des actifs. Quelqu'un avait acheté cette parcelle de terre-là et avait proposé de construire du logement là. Et les gens essayaient de bloquer la transaction, parce qu'il disait, ben là, la construction, ça va construire il veut construire une tour à logement, ça va rendre la place beaucoup moins plaisante pour les autres, etc., etc. Et lui, le promoteur, dit, je vais poursuivre la ville, puis vous allez pas gagner parce que je vous I'll financially break you, dans le sens que lui, il avait beaucoup de ressources, puis il était prêt à le faire. Et ce qui s'est passé, c'est que les gens ont fait une collecte de fonds. Ont fait des drives pour justement convaincre le gars à toute fin pratique de pas vendre le terrain. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont donné l'argent à la ville qui a acquis la parcelle de terre du promoteur et qui l'a ensuite laissé à l'utilisation que les gens en faisaient avant. Bien ici, la partie qui est intéressante, c'est que tu as vu qu'il y a eu une drive sociale où les gens ont eux-mêmes ont financé quelque chose. Et, OK, d'accord, ça a été une nationalisation, mais je ne suis pas sûr que j'appellerais ça une nationalisation dans ce cas-ci. C'est un cas vraiment avec des ambiguïtés, mais le résultat...
C'est une collectivisation, mais volontaire, dans le sens, c'est un peu comme...
Ça ressemble à ça.
Desjardins, c'est quoi? Tu sais, on donne des ristournes, voyons, c'est mais d'habitude, je connais ça. Desjardins, c'en est une.
Une union, un credit union.
Mouvement
coopératif.
Une coopérative, exactement.
Moi aussi, j'ai rushé.
Le concept de coopérative, c'est un concept, sérieusement, que les gens de droite n'ont pas de problème avec, by the way. Hein.
Non, zéro.
Tant que c'est volontaire, je veux dire. Tant que c'est pas imposé comme modèle.
Exactement. Parce que c'est la différence entre une coopérative et un gouvernement, c'est ça.
Mais je te dis ça de même, mais dès qu'il y a de la coercition, il n'y a plus de coup, c'est plus vraiment de la coopération.
Non, non, c'est ça. Mais juste pour clore le sujet, voici 3 ans plus tard le site de l'ancienne église. Voici regarde le super beau terrain. Regarde ce qu'on est là. C'est pour les gens qui connaissent la ville de Québec. Là. Voici l'hôtel Le Concorde. L'Assemblée nationale est au bout de la rue ici, là. Très proche. Voici l'immense et beau terrain disponible pour faire peut-être même 2 unités d'habitation. Je ne sais pas, il faudrait mesurer.
Hey, mais... Il y a quelqu'un qui voulait utiliser son argent pour construire de quoi de vraiment bien là.
Oui, mais...
Le pire, c'est que souvent aussi, c'est que ça... Écoute, l'exemple que je donnais, là, il est pertinent pour une chose, c'est que tu peux avoir des conversions, mais tu aurais pu avoir quelque chose de mitoyen, comme par exemple, intégrer l'Église dans le nouveau bâtiment. Donc, de préserver une partie du passé. Si tu descends à Québec, donc par exemple, moi, où est-ce que moi et ma conjointe, on vivait avant, on vivait dans 2 rues au sud de René-Lévesque. Je pense, j'oublie le nom des rues maintenant, mais on était pas loin de la rue René-Lévesque.
Tu t'es rabaissé à vivre à Québec?
Je me suis rabaissé à vivre à Québec pendant 2 ans avec ma conjointe. On était une rue au sud du ministère du Travail. Donc, tu avais le gros building du ministère du Travail, je pense, sur quartier, j'ai envie de dire. On était une rue au-dessus, mais juste derrière le ministère du Travail, il y a une ancienne église qui a été convertie en condo. Mais toute la façade a conservé le patrimoine historique. Si vraiment on avait... Des solutions de marché, ça existe. Ou est-ce que tu aurais pu... Mettons que je suis...
Ça s'appelle du facadisme, Vincent.
Non, mais mettons que j'ai la même motivation que Catherine Dorion. Okay? Ou est-ce que ma motivation, c'était... Et on va la présumer sincère, que c'était une motivation de la préservation de notre patrimoine.
Elle voulait sa face dans le journal.
J'ai dit, je vais présumer.
Ouais, il essaie d'être généreux.
J'essaie d'être généreux. Laisse-moi.
Ben, Catherine, je ne suis pas capable.
Mais ça aurait été très possible de dire, écoutez, on aimerait ça compenser le promoteur pour un coût extra qui nous permet d'accommoder, nous, ce qu'on aimerait garder et lui, l'utilisation de sa propriété. Tu aurais pu avoir des solutions mitoyennes, tu aurais pu avoir du bargaining.
C'est pas correct. Mais regarde, je vais te le lire. Okay. La pression immobilière et les hauteurs ne sont pas les seules menaces qui planent sur le patrimoine bâti. Le CPM s'inquiète notamment de la croissance du phénomène de façadisme, qui consiste à vider ou à démolir un immeuble historique pour n'en conserver que la façade. Alors, tu pensais vraiment que c'était une solution, ton affaire? Sale façadiste?
Il y a certaines personnes qui seraient probablement très confortables avec ça, Maintenant, là,
c'est jamais correct ce qu'on fait.
Avec une réponse comme ça, je doute vraiment de la sincérité. Je veux dire, pourquoi garder une église pour garder une église en tant que telle? En fait, encore une fois, puis je suis un historien économique, là, je veux dire, je suis très fan de la préservation de l'exercice de commémoration, mais comme n'importe quoi, la quantité optimale n'est pas zéro, mais elle n'est pas infinie non plus. Là. Un jour, il y a des contrebalanciers, et le contrebalancier ici, c'est qu'il faut payer un coût de garder des unités, garder un bâtiment que personne ne veut utiliser dans la forme qu'il est présentement.
Non, terrain fait, quand tu m'arrives avec une affaire de même, il faut que tu me dises deux choses. Comment on la rénove pour recommencer à avoir des messes d'une façon récurrente? Première possibilité. Et deuxième possibilité, on décide de conserver le patrimoine. Parfait. Comment on la rénove pour créer le plus beau musée de la région, de la religion catholique dans la ville de Québec?
L'affaire des musées, j'ai toujours trouvé que il y en a des musées partout. Je pense que c'est exagéré.
Ouais, mais au moins, c'est pas un bâtiment vide qui sert à rien et qui est dans
le les musées, là, c'est. Quand tu regardes la distribution des visites dans les musées en général, tu as un ou deux musées qui absorbent la majorité des visites touristiques. La plupart des autres, après, en ont que très peu. Donc, tu n'as pas énormément... Tu sais, je veux dire, un musée pour un musée, surtout, tu sais, qu'est-ce que ça ajoute? Une église particulière dans un quartier à Québec, surtout que tu as probablement des... tu n'as pas de basilique à Québec, là, mais... Non. Mais mettons, à Montréal, si tu gardais une église, juste pour garder une église dans, disons, la petite Italie ou quelque chose comme ça, alors que tu as Basilique Marie-Reine du Monde au centre-ville et juste à côté, l'église Notre-Dame, à un moment donné, tu l'as une préservation de la trace historique chrétienne,
ben non, catholique, si je veux dire,
canadien, français, dans une forme exceptionnelle.
Ouais. Dans cet emplacement-là,
aller dans un musée comme ça, là.
Dans cet emplacement-là de la ville... c'était loin d'être une super belle église, là, premièrement.
Non.
Deuxièmement, t'en as une qui est deux coins de rue plus bas sur la rue Saint-Jean, ben, fin du chemin Sainte-Foy à rue Saint-Jean, qui est l'église.
Tu vois, là, regarde, ce que tu fais, c'est que tu montres que le trade-off, il y en avait un, là, c'est que il n'allait pas avoir une disparition totale.
Ben non. Et mais comment ces gens-là peuvent faire tout le... Moi, je comprends pas. En vue de leur propre objectif. Tu sais, moi, je m'en fous, là, mais c'est leur propre objectif. J'ai un article ici là, du Devoir qui date d'il n'y a pas longtemps. Je ne le partagerai pas parce que ce n'est pas important pour le visuel. Là. Mais ça parle des différentes facettes de la densification. Puis là, tu commences à lire l'article, ça parle que là, la seule manière de contrer l'étalement urbain puis toute la fin, c'est de densifier les villes. Il faut densifier. Puis là, ça parle de Montréal dedans. Puis ça dit que le bilan de la ville, c'est un article qui date d'un mois ou deux, là. Ça dit que le bilan de la ville, c'est qu'ils ont perdu 48 000 habitants au profit de d'autres régions du sommet du Québec, un sommet en près de 20 ans. Puis là, dans l'article, ça dit, il n'y a pas de logement, c'est difficile, on a un problème, les gens qui arrivent ne sont pas capables de se loger. Mais d'un autre côté, à chaque fois qu'il y a un projet, là, j'ai parlé de Québec, mais je suis sûr que si on fouille à Montréal, c'est la même chose. Il y a une terre quelque part qu'on pourrait faire des logements dessus. Les mêmes qui vont dire qu'il faut densifier la ville vont dire franchement, une terre agricole ou ça, c'est l'ancien bâtiment d'une vieille shop qu'il y avait, on ne peut pas défaire ça, c'est le patrimoine. Tu sais, Mané, mais on les construit où? Où construisons-nous ces endroits-là pour permettre aux gens de rester en ville puis de ne pas partir
urbain? On les accuse d'être incohérents, mais la réalité, c'est que je suis sûr que si on leur demande est-ce qu'il y a trop de gens sur Terre, la réponse, ils vont dire généralement oui. Ouais. Contrairement à ce que
oui,
je pense.
Oui, mais dans les banlieues, pas en ville.
Non, mais en général. OK.
La bombe nucléaire, là, pour de la décroissance, il faut qu'elle tombe sur Lévis, pas Québec.
OK, d'accord. je ne sais pas quoi répondre à ça. Mais peut-être qu'ils sont cohérents à cause de ça. Parce que c'est la vue est fréquente. En fait, je suis sûr que si on demandait aux 10 députés de Québec solidaire, puis c'est pas parce que je veux les cibler particulièrement, mais parce que je cible la partie la plus à gauche de l'échiquier politique, est-ce que vous pensez qu'il y a trop d'êtres humains sur Terre? La plupart vont avoir une variante de « oui ». Dans le sens, il faudrait qu'on ait moins d'enfants.
Mais ils vont faire des bébés eux-mêmes, par exemple. Catherine Dorion en a 3. GND, il y a son premier. La madame de l'Abitibi, je pense qu'elle en a aussi.
Ouais, le pire, c'est que t'en veux-tu une comique? En fait, ça serait hyper cohérent.
Pas sûr de l'Abitibi, par exemple.
Parce que quand tu regardes Ça, c'est mon collègue Brian Kaplan qui m'a fait réaliser ça. Quand tu regardes l'élasticité de l'offre d'enfants, c'est-à-dire que quand est-ce qu'on décide d'en avoir.
J'aime ça, c'est ça.
L'élasticité de l'offre d'enfants, on va dire, vous comprenez de quoi ce qu'on parle. Ouais. Quand tu regardes un des
facteurs... La dilatation?
Écoute, dépendant des moments, c'est très inélastique.
On n'est pas encore sur Patreon, je vous le rappelle.
Ah oui, oh, désolé.
Donc, l'élasticité de l'offre d'enfants est très, très sensible à le revenu réel. Et un des aspects qui est particulièrement important, c'est le coût du logement. Largement parce que tu peux avoir plus de revenus, donc tu as plus de ressources pour tes enfants. Mais ce qui est beaucoup plus important, puis que les parents sont étrangement plus sensibles à ça, c'est un des coûts les plus importants d'avoir des enfants, c'est l'espace qu'ils occupent. Donc,
la
si le coût
crise de cuisinette en plastique.
Ce qui m'avait vraiment surpris, c'est qu'un 1%...
L'auto rouge avec le toit jaune, sacrément que ça prend de la place.
Effectivement. Effectivement, une réduction de 1% du coût réel, donc ajouté pour l'inflation, d'un pied carré d'unité de logement est plus important sur le nombre d'enfants que tu vas avoir qu'une augmentation de 1% de ton revenu. Mmh. C'est quand même assez fascinant l'effet que ça a. Les gens, si vraiment, donc là, quand je disais peut-être qu'ils sont encore plus cohérents que ce qu'on réalise, ils veulent moins de gens et ils ont les politiques pour. En augmentant le coût du logement, en proposant tout ce qu'il fait pour réduire l'offre de logement, ben le résultat est exactement ce qu'eux, ils veulent.
Tu sais quoi, j'ai l'impression ces gars-là, Vincent, c'est quoi la réelle motivation?
Je suis baveux, là, parce que je veux dire, je ne pense pas qu'ils ont réfléchi autant que ça. Mais l'idée ici, c'est que vraiment, là, pour apprécier l'importance d'enlever des réglementations sur le logement. Ça, c'en est un. La détermination de la taille des familles est en très large partie liée au coût du logement, c'est-à-dire le coût des installations que tu as besoin dans une maison pour des enfants. Ouais. Regarde souvent combien de parents vont se plaindre du fait qu'ils doivent mettre deux enfants dans la même chambre, qu'ils n'ont pas assez d'espace pour deux des enfants ou qu'ils doivent partager de l'espace avec leurs enfants, qu'ils n'ont plus une chambre à coucher qui est exactement la leur. Ces choses-là, c'est des choses que les parents sont particulièrement sensibles à. Et surtout, dès que tu as le premier puis que tu apprécies un peu l'espace qu'un enfant occupe, la sensibilité augmente davantage chez les gens qui en voudraient peut-être un deuxième ou un troisième. Le coût d'un pied carré additionnel est assez important sur le nombre d'enfants. Puis contrairement aux gens de gauche, moi, je pense que plus de gens, c'est une bonne chose parce que dans des régimes libéraux, plus de gens, ça veut dire plus d'idées. Et les idées, c'est ce qu'on appelle un intrant non rival. C'est-à-dire que si j'apprends à quelqu'un à pêcher, je n'ai pas désappris à pêcher. Et si quelqu'un invente une meilleure manière de pêcher, l'idée ne va pas disparaître quand il va l'enseigner à une autre personne. Les idées sont non rivales. Plus tu produis de gens, plus tu produis d'idées, plus tu produis d'idées, plus tu augmentes la productivité en général. C'est pour ça que beaucoup de gens comme Julian Simon ou d'autres économistes qui font d'économie de l'environnement disent mais peut-être que, étrangement, l'une des solutions aux problèmes écologiques, surtout si tu penses que l'accélération de la des technologies, des découvertes technologiques est une des clés de voûte de gérer le problème, avoir plus d'individus sur Terre qui ont des idées qu'on peut développer, qui vont essayer d'inventer des choses, c'est ce qu'on devrait aller de l'avant avec. Moins de gens, moins d'idées. Plus de gens, plus d'idées. Tu chauffes une Camry ou que tu sois à pied, l'argent vaut la même chose. Yann, Vincent et le dédomiseur, s'il vous plaît, expliquez-nous. Ça va faire 6,45, passez au deuxième guichet, s'il vous plaît.
On adore faire des podcasts pour vous. Comme vous le savez, par contre, mon vrai travail dans la vie, c'est d'être dirigeant d'un cabinet de services financiers. Si vous voulez visiter notre site et obtenir des services financiers, des conseils par rapport aux investissements, les REER, les CELI, faire des projections de retraite, éventuellement regarder les régimes d'épargne études des enfants, les assurances vie, assurances invalidité, vraiment, on a une gamme de services qu'on peut vous offrir. Dirigez-vous vers votreconseiller.net. vous allez pouvoir trouver nos coordonnées et éventuellement obtenir nos services. Merci.